Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Patrick Guéry.
Et on retrouve Mathieu Boulay, journaliste sportif au Journal de Montréal. Salut Mathieu.
Hey, salut Patrick.
Hey, je regarde tes notes. Hécatombe à Montréal, une première depuis 1999. C'est avec le genre de nouvelles qu'on a ces jours-ci, le choix des mots, c'est important. Là, on parle bien de tennis.
Oui, tout à fait. Il n'y a pas de décès. Il n'y a pas rien de grave ici. Là. Bon. On parle d'élimination des trois premiers favoris à Montréal.
Mais l'élimination des trois premiers favoris, ça aussi, ça peut porter à confusion. OK, je te laisse continuer.
Patrick, aujourd'hui, il est en feu.
Écoute.
Il est en feu. Mais non, ça, c'est hier, on a acheté quelque chose d'assez exceptionnel. On a eu l'élimination des trois premiers favoris à Montréal, coup sur coup. Carlos Alcaraz, suivi de Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas en soirée. Les trois ont été éliminés. Puis là, le tournoi, on dit, bon, ben là, le tableau, il s'ouvre pour un gars comme Félix Auger-Aliassime. Présentement, Félix Auger-Aliassime est sur le terrain. Présentement, c'est 3-3 en première manche entre Félix Auger-Aliassime et le Britannique Cameron Norrie. Pour le moment, du début de match, c'est assez tranquille entre Félix et Cameron Norrie. Ils s'échangent les services. On dirait qu'ils s'étudient un peu comme dans un ring de boxe pour voir un peu qui va plancher de premier. Alors que l'autre va être au service. Pour le moment, c'est un peu ça la situation. Pour le reste, pour le moment, on va peut-être avoir droit à une autre élimination d'un favori parce que Hubert Hurkacz, le Polonais, est en train de se faire éliminer par un Espagnol, un inconnu qu'on connaît moins à Montréal. Alors, c'est toute une situation qu'on voit à Montréal. Puis, parce que le tournoi en tant que tel, on s'attendait à avoir des demi-finales extraordinaires entre Medvedev puis peut-être Nadal ou Medvedev contre Djokovic, mais là, c'est pas ça la situation. Et là, ça va être intéressant parce qu'on va avoir droit à des quarts de finale, des demi-finales, même des finales en fin de semaine, où ce que peut-être on va avoir deux inconnus en finale. Et ça, des fois, comme amateurs de tennis, ceux qui viennent au terrain, c'est pas tous des mordus qui suivent le classement mondial à tous les jours, au quotidien, au niveau international. Ben, il suit plus Félix. Parce que vraiment, là, à partir de maintenant, là, tous les yeux et toute la pression va sur Félix Auger-Aliassime. Et moi, je pense que Félix Auger-Aliassime a une chance de se rendre assez loin dans le tournoi, mais tout est entre ses mains. Parce que là, veut pas, il y a un chemin, mais il n'est pas si facile que ça. Cameron Norrie, ce ne sera pas une marche dans le pack aujourd'hui. Et demain, s'il l'emporte, il affronte le Norvégien Casper Ruud, quatrième favori, puis un des meilleurs joueurs au monde à l'heure actuelle. Et s'il l'emporte, possiblement, c'est une confrontation contre Nick Kyrgios en demi-finale. Alors, avant de se rendre en finale puis de créer victoire puis de dire que Félix va gagner le tournoi, un instant, c'est pas fait. Félix le sait aussi, il a la même philosophie, un match à la fois, et on verra où est-ce que ça va l'amener.
Tu disais, bon, les têtes de série 1, 2, 3 qui sont tombées, première fois en plus de 20 ans. Félix Auger-Aliassime, il est classé où, lui, dans le tournoi?
Dans le tournoi, il est sixième favori. Parce que si, admettons, la logique est respectée et il gagne aujourd'hui, il va devenir le deuxième favori, le deuxième gars le mieux classé dans le tournoi. Il y a Casper Ruud qui est en avant de lui, puis c'est tout. Le reste, tous les autres joueurs en avant de lui, ils ont été éliminés. Que ce soit André Rublev, que ce soit Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev. Je te dis, hier, là, les organisateurs ont dit, ah oh, non, comment ça que tout le monde tombe, puis c'est ça, ben, je pense que là, c'est le premier tournoi le deuxième tournoi sur surface 2. Je pense que les meilleurs au monde, ils sont encore en train de trouver leur repère sur cette surface-là. Et la semaine prochaine, il y a un tournoi à Cincinnati. Fait que s'il y en a des favoris de la poule, ils ne performent pas cette semaine, mais la semaine prochaine, ils ont une autre chance de se reprendre avant les internationaux des États-Unis avec le tournoi de Cincinnati, qui est aussi un Masters 1000, où ils peuvent remporter 1000 points avec un championnat à cet endroit-là. Mais je dois dire que Medvedev, hier, ça n'a pas été une surprise, mais Medvedev était un peu fâché parce que d'affronter Kyrgios en début de tournoi, je comprends très bien l'humeur dans laquelle il était parce qu'il dit, ben, moi, ça me dérange pas d'affronter Kyrgios peut-être en demi-finale ou en finale, mais pas comme premier match du tournoi affronter Nick Kyrgios, c'est pas un cadeau, là. Et Kyrgios, en plus, joue du très gros tennis par les temps qui courent.
T'as parlé de surface dure, donc ça veut dire que c'est un terrain qui est plus rapide, par exemple, par rapport à quoi, de la terre battue ou du gazon?
Exactement, parce que la surface dure, c'est justement, ça favorise les serveurs. Un serveur comme Félix Auger-Aliassime, un serveur qui court les 200 km/h avec son service.
Quoi? 200 km/h?
Oui, monsieur. Quand ça rentre, là, et tu manques ton coup, puis tu manges juste une fesse, là, Patrick, là, ça fait vraiment mal. Là. Et là, moi, je plains des petits serveurs. Tu sais, il y a des petits bouts de choux, là. Il y a des petits bouts de choux. Des enfants qui ramassent les balles sur le bord du terrain. Il y en a, là, des fois, qui ramassent les services à main nue. Là, je fais caline, OK, ils n'ont pas peur, mais ça rentre, là. C'est une très grande vélocité. Puis là, quand tu entends les clameurs, tu vois que c'est un point en faveur de Félix. Le stade, le central du stade IGA est plein à pleine capacité. Pour revenir aux surfaces, la terre battue, la balle écrase dans le sable, dans la surface molle. Et sur le gazon, elle écrase aussi. Mais c'est aussi rapide en même temps. Tu sais, c'est vraiment c'est trois surfaces complètement différentes, puis les joueurs n'attaquent pas ça de la même manière. Les joueurs, ils disent qu'ici à Montréal, la surface est quand même c'est normal pour une surface dure. Au niveau du rebond, au niveau de la rapidité des échanges, Félix a dit que c'était normal. Mais d'autres qui se sont plaints, ils disent que c'est un petit peu trop lent. Mais ça, c'est des caprices de vedette, des problèmes de riches que j'appelle.
En effet, écoute, des problèmes de riches. Tu te dis, ben écoute, on va voir. Peut-être qu'on va voir une histoire, une belle histoire québécoise, sait-on jamais. On va voir où Félix va se rendre. On va lui souhaiter la meilleure des chances. Puis écoute, ben Mathieu, on se dit merci pour cette chronique et on se reparle bientôt.
Hey, c'est quoi, Patrick? Demain, là, ensemble, là, on va parler de gardien de but ensemble. Je te promets qu'on a une chronique de gardien de but avant la fin de la semaine parce que je suis sûr et certain que tu as hâte de savoir qu'est-ce qui se passe avec les gardiens de but dans la ligne nationale de hockey.
Bon, ben écoute, on va être prêt pour ça. Ça se peut que tu en parles avec Guillaume, par exemple.
Ah, OK, parfait. Ouais, Guillaume, là, il aime la F1, il aime le tennis. Fait que là, on va pas le gardien de but avec lui pareil. C'est pas grave. Ben, bon congé, Patrick.
Hey, merci beaucoup. À bientôt.
À demain. Bye.
Ça complète pour moi, j'étais sur ma sortie parce qu'habituellement le thème part après les chroniques, mais là c'est moi qu'il faut qu'il ferme quand même. Donc c'était ma dernière émission de la saison estivale. Évidemment l'été n'est pas terminé, puis il va y avoir Guillaume Lavoie demain, Marc-André Leclerc la semaine prochaine, qui vont faire ça avec leurs compétences habituelles. Moi je voulais vous dire merci, ça a été un immense privilège de pouvoir faire ça. Moi j'étais plus, j'étais plutôt chroniqueur. L'animation, c'est pas quelque chose que j'avais touché. Mais on m'a offert de le faire. Puis écoute, je dis, on va se lancer, on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc, à tous les jours, j'étais immensément heureux de pouvoir vous entretenir, essayer de comprendre des choses, parler à des chroniqueurs, des invités. Évidemment, une émission, ça se fait pas tout seul. Il y a tous les collaborateurs que vous avez entendus. Je leur fais un clin d'œil en passant. L'équipe qui permet la mise en onde, entre autres Cybèle Olivier à la recherche, Joanie, Henri, Jessica Giroux à la mise en ligne, Charlie Marchand à la technique qui est là aujourd'hui aussi, les autres que je vous ai nommés aussi, Louis-Antoine Lemire qui a donné un bon coup de main à la recherche encore presque tous les jours, Carl Marchand il y a quelques semaines, Florence Lamoureux, et sans doute d'autres que j'oublie, c'est des gens qu'on ne voit pas, mais qui permettent que l'émission se fasse aussi. Un clin d'œil aussi à Dominique Plamondon, Jean-Nicolas Gagné et Luc Fortin qui m'ont un petit peu poussé dans le dos pour essayer cette expérience qui finalement a été immensément enrichissante. Et un merci tout particulier à vous qui êtes là à tous les jours, à écouter, à relayer parfois aussi l'émission après sa diffusion. C'est ça, on fait pas ça pour soi, on fait pas ça pour parler dans le sous-sol tout seul. On fait ça parce qu'on sait qu'on est écouté, qu'on est entendu, on a des retours souvent de l'émission. C'est toujours apprécié, c'est le fun, ça montre que, écoute, ça répond à quelque chose, ça entretient une conversation nécessaire comme d'autres ont la chance de le faire. Alors c'est ça, c'était un immense privilège. Merci beaucoup, on se retrouve sans doute bientôt sous une façon ou d'une autre. Au revoir.